écoutez Info Club Sandwich, votre émission d'actualité locale et associative réalisée par Radio Campus Amiens.
Bonjour à tous et à toutes. En ce vendredi, on va parler du FIFAM, Festival International du Film d'Amiens. Et on va commencer par une interview présentée par Mathéo.
Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui sur Radio Campus Amiens. Que vous soyez jeune ou plus âgé, cinéphile aguerri ou débutant, s'il y a bien un événement immanquable en ce mois de novembre à Amiens, c'est le Festival International du Film. Du 14 au 22 novembre se déroulera sa 45e édition et au programme. Des rétrospectives, une compétition officielle, des avant-premières nationales, des dizaines de partenaires, des invités d'exception et j'en passe. Nous allons donc aujourd'hui revenir sur ce festival et ça tombe bien puisque je suis en compagnie de deux invités spéciaux. William Tessier, vous êtes responsable de la communication du Ciné-Saint-Leu et votre cinéma est partenaire du festival. Et Alexandre Lavaret, vous êtes programmateur, directeur artistique du festival. Une première question que je vous pose à tous les deux. Vous êtes partenaire lors de ce festival. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie et qu'est-ce que ça représente pour chacun de vous deux? Alexandre, peut-être pour commencer.
Oui, bonjour. Oui, on est partenaire déjà parce qu'on appartient à la même association qui s'appelle Amiens Ciné. Donc le festival et le Ciné Saint-Leu, c'est la même structure depuis toujours, quoi. Après, c'est une salle importante d'Amiens, donc forcément, on travaille avec le Ciné Saint-Leu. Nous, on est à la Maison de la Culture, au cinéma Orson Welles, petit théâtre pendant le festival, etc. Mais forcément aussi, on est avec le Ciné Saint-Leu, on est aussi avec le Pâté, avec d'autres salles d'Amiens. Mais concrètement, c'est déjà le Ciné Saint-Leu accueille 5 films par jour, 4 à 5 films par jour pendant le festival. William a déjà travaillé au festival aussi, donc on se connaît bien avec l'équipe du Ciné Saint-Leu. Et puis c'est tout un tas de choses aussi qui parfois se poursuivent dans l'année avec nous ce qu'on appelle des ciné-licornes, des séances qu'on organise en dehors du festival. Enfin, c'est tout un tas de choses comme ça. Je sais pas si William, t'as des choses.
Non, mais je crois que t'as tout dit. C'est vrai que c'est assez mal connu finalement que le Ciné Saint-Leu et le FIFAM soient la même association. Donc, comme disait Alexandre, Amiens Ciné. Donc nous, finalement, plus qu'un partenariat, c'est vraiment une suite logique de les accueillir et c'est même... j'allais dire normal, mais c'est pas le mot que je cherchais, mais c'est une volonté, et c'est une suite logique en fait à cette histoire, puisqu'en fait le festival a 45 ans cette année, le Ciné Saint-Leu 25, donc voilà, le Ciné Saint-Leu est un peu venu après et bâti entre guillemets des suites du Régent, mais aussi par des gens du FIFAM, et donc c'est un cousinage presque naturel de les accueillir.
Est-ce que c'est un peu une continuité par rapport à tout le travail que vous faites sur toute l'année d'accueillir finalement le festival en fin d'année?
Ouais, et puis je trouve que c'est surtout une continuité par rapport au travail que le FIFAM fait. C'est qu'à un moment donné, au vu de leur programmation qui est à la fois pointue, grand public et qui nous amène à voir d'autres horizons, nous c'est vraiment notre cœur de métier au Ciné Saint-Leu, c'est de montrer un cinéma différent, un cinéma qui est peu montré, parfois aussi un cinéma un peu grand public, mais quand même avec des notes dissonantes par rapport à ce qu'on peut appeler du cinéma mainstream. Donc quand le FIFAM fait ce travail-là, nous, forcément, on n'a qu'une envie, c'est de les accueillir et de montrer ces films-là et de leur permettre, parce qu'un festival sans salle, ça n'existe pas. Et que voilà, le FIFAM n'ayant pas des salles à lui, parce qu'il n'en aurait pas l'utilité toute l'année, c'est somme toute logique qu'on les accueille, et encore plus, comme je vous disais, quand il y a un cousinage comme celui-là.
Alexandre, cette année, la thématique du festival, elle tourne autour de la place que nous occupons dans l'immensité du monde, du rapport entre l'immensément grand et l'intime. Mais il y a quelques années, la thématique, elle tournait autour de la vache. L'année dernière, c'était le vampire. Alors ma question, c'est comment est-ce que vous choisissez les thématiques du festival? Et surtout, comment cette thématique, elle doit être présente dans le film? Est-ce que c'est la centralité de l'œuvre qui doit tourner autour de la thématique ou une simple référence?
Vaste question.
Ouais, vaste question. En fait, la thématique qui fait suite à la vache, à la robe à paillettes, au vampire, là, c'est plus la ville en mouvement. Et en fait, l'idée, nous, c'est on s'est posé la question de la place de l'individu, justement, dans le groupe, avec justement ce qui va amener la question de l'infiniment grand, etc., avec une autre programmation qui s'appelle Douce Apocalypse. Après, pour répondre à cette question, c'est pas évident, parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui, selon les programmations, vont traverser, enfin... Déjà, il y a des envies, l'envie de montrer des films, hein, c'est le cœur du métier de programmation, c'est découvrir des choses, avoir envie de les rassembler ensemble sous forme de programme et de les montrer à des gens, c'est aussi simple que ça, donc c'est peut-être pas si vaste quand on considère juste ça. Après, derrière tout ça, c'est des fois ça peut être des moments, de l'impression qu'il se passe quelque chose, par exemple dans tel pays, donc on a envie de montrer ce qui se passe, ou dans telle façon d'appréhender le cinéma avec un genre en particulier. Et des fois, c'est juste une thématique qui permet de rassembler un peu tout ça. L'idée, c'est pas que... Là, par exemple, pour la ville en mouvement, c'est pas forcément qu'on soit tout le temps dans des plans où tout bouge, où tout est en train de... Uniquement dans des villes, mégalopoles, etc. C'est vraiment, selon les films, c'est construire une espèce de... de cohérence avec les films qui vont se répondre les uns aux autres. Nous, on aime bien aussi que les films se répondent de programmation en programmation. On a des choses qui... On va aussi parler du film et collectif avec des collectifs qui sont construits dans des villes, justement, au moment des JO, donc avec des choses, beaucoup de mouvements de construction, de destruction. Donc voilà, c'est pas un truc vraiment défini, c'est surtout du ressenti. Après, on essaye, selon les programmations, de construire quelque chose de cohérent.
William, pendant le festival, il y a certains films qui sont donc diffusés au Ciné Saint-Leu. Comment est-ce que vous décidez des films qui seront diffusés au Ciné Saint-Leu ? Est-ce que c'est des choix qui sont issus de votre ligne éditoriale ou est-ce que vous avez un rôle plus logistique et vous accueillez les films qu'on vous dit d'accueillir ?
Eh ben écoute, t'as répondu à la question. Non, bien sûr que le festival nous tient au courant au fur et à mesure des mois qui précèdent le festival. Parfois même nous demande conseil. Je pense à Angélique qui fait partie du comité de sélection en compétition. Parce que ils sont peut-être 5 personnes, si je dis pas de bêtises, à programmer la compétition. Et Angélique, qui est programmatrice chez nous, a rejoint l'équipe à l'invitation de Marie-France il y a maintenant 5 ans. Donc voilà, c'est comme ça qu'on participe. Et puis encore une fois, comme il y a cette proximité, on est amené à se voir souvent, à discuter. Et on essaye de répondre au maximum présent lorsque le FIFAM nous demande des choses, quoi que ce soit. Mais par contre, non, après, sur le travail de la grille et de l'accueil des films, c'est purement le FIFAM qui... Parce qu'il y a aussi toute une partie qu'on n'imagine pas, et que moi j'ai découvert en bossant 3 ans au festival, qui est la grille, où finalement, on se pose même pas la question de où... Enfin, si on peut se poser la question, tu m'arrêtes si je me trompe, Alexandre. On peut se poser la question de où vont les films, mais aussi, à un moment donné, c'est une sorte de puzzle géant, quoi. Il y a des questions d'horaire, d'invités, de copies, des fois de 35, c'est forcément que au Ciné Saint-Leu, qu'on est les seuls encore à avoir un projecteur 35. Donc là, la question se pose pas trop, c'est chez nous. Si un invité est ailleurs ou quoi que ce soit, bah, peut-être on va aller dans le cinéma plus près. Et c'est tout une sorte de puzzle mental qu'il faut avoir en tête avec 10 000 choses à gérer. Et c'est assez impressionnant quand on voit travailler ça au FIFAM.
Et comment la sélection des films, elle se déroule? Par exemple, combien de films vous voyez par curiosité? Et est-ce que la thématique du festival, elle est décidée avant de voir les films? Ou alors, est-ce que vous faites en fonction des films qui candidatent et vous décidez une thématique commune et vous organisez le festival?
En fait, il y a plusieurs choses. William le rappelait tout à l'heure, on a un comité de sélection qui s'occupe de la compétition. Long-métrage, moyen-métrage et court-métrage. Donc, on est 5, avec Angélique, Lucas Simoni qui est au cinéma Orson Welles, avec Saskia qui est en programmation au FIFAM et avec Luisa Pastrane qui est en programmation indépendante. Donc, nous, on voit beaucoup de films. C'est difficile de savoir combien on envoie chacune. On se déplace en festival, on demande des liens, ce genre de choses. Et ça, c'est vraiment... Nous, on n'a pas d'appel à films, en fait. On n'a pas assez, encore une fois, de ressources de personnes pour voir 2000 films par personne au cours de l'année. On n'a pas de salle aussi pour ça au cours de l'année. Mais on voit beaucoup de films. Moi, je suis beaucoup, justement, dans l'idée de faire un premier tri, d'aller demander des films qui, je pense... vont nous plaire ou en tout cas serait intéressant pour ce qu'on essaye de faire en compétition au FIFAM. Donc on demande pas tous les films. Nous déjà on a principalement que des premiers et seconds films, parfois des troisièmes films, mais on demande pas un dixième film d'un réal très connu. C'est pas ce qu'on cherche à faire en compétition, ce qu'on essaye de mettre en avant des nouveaux cinéastes. Après pour la programmation, disons thématique, ça se passe pas du tout de la même façon. On n'a pas encore une fois d'appel au film. On reçoit pas des films qui diraient bon bah moi, je travaille sur, justement, les villes en mouvement. Là, c'est vraiment sur notre cinéphilie à nous, sur des moments. Des fois, ça part d'une découverte. Là, je pense au film Planète de Momoko Seto, qui va être diffusé en avant-première au festival et qui nous a pas mal inspiré pour notre programmation Douce Apocalypse. Donc, ça part de ça. Mais après, on fait appel à notre cinéphilie, à nos souvenirs cinéma. Le but, c'est pas aussi de juste montrer des films qu'on aime. C'est d'essayer d'être cohérent et de faire en sorte que ça prenne sens. Donc, c'est pas vraiment, c'est un mélange pour la compétition de ce qui se passe actuellement dans le cinéma et pour les programmations thématiques de ce qu'on aime et de ce qu'on pense être intéressant à un moment donné.
William, certains films, donc, sélectionnés par Alexandre et son équipe sont donc diffusés au Ciné Saint-Leu et certains sont parfois uniques et sont très peu voire pas du tout diffusés à la suite du festival. Qu'est-ce que ça représente pour vous de diffuser des films qui ne le seront peut-être pas du tout par la suite et qu'est-ce que vous ressentez quand la salle est remplie pour un film qui vient de l'autre bout du monde?
Ça c'est vraiment un sentiment qui est particulier. Je pense à un film, tu m'arrêtes si je me trompe, j'ai plus le titre, The Watermelon Woman, qui est un film qui est jamais sorti en salle, qui là est une exclusivité Mubi, que j'ai pas pris encore le temps de voir sur Mubi, et qui finalement, grâce au festival, va être visible en salle. Et ça, c'est quand même, Je suis le premier à voir des films chez moi. J'ai la chance d'être bien équipé avec un cinéma, une belle télé, un machin, un truc. Mais il y a rien qui enlève le sentiment de découverte en salle, de ce sentiment collectif. Donc ça, c'est super important. Et puis le festival, depuis 45 ans, a toujours fait, comment dire, sa priorité de montrer des films invisibles et qui parfois même n'ont jamais eu de vie en France, que ce soit en salle, en DVD, en Blu-ray, en plateforme, qu'importe, et qui ont été des films qui ont été visibles que finalement dans ce cadre-là. Et ça, c'est super important, parce que même aujourd'hui, à une époque de mondialisation, il y a encore plein de films qui sont malheureusement invisibles. Et quand un festival comme le FIAM fait ce travail-là, c'est super important. Quand la salle est remplie, c'est d'autant mieux, parce que voilà, on se dit qu'on fait pas ça pour rien. Mais non, c'est un sentiment qui est vraiment agréable. Je repense l'année dernière avec Les Vampires, on avait, nous, programmé Vampires, Recherche, Suicidaire, Consentant.
Vampire Humaniste, Recherche, Suicidaire, Consentant.
C'est le titre en entier. Qu'on avait sorti, qu'on avait fait dans le cadre, dans différents cadres et tout ça. Et quand le film arrive avec sa programmation Vampire, il nous parle de ce film-là, on se dit, c'est dommage, parce que peut-être qu'en effet, on l'a peut-être un peu usé, machin. On le programme quand même, parce qu'en plus, ils ont eu la chance de faire venir l'actrice principale du film, qui était un moment super après le film, et la salle était complète. Donc, tout d'un coup, un festival, ça offre une nouvelle vie au film. Que les films aient été visibles, pas visibles, qu'ils ont eu une vie, qu'ils aient parfois fait 500 000 entrées, 1 million d'entrées, qu'importe. Tout d'un coup, un festival, par sa notoriété, par cette vision si globale, c'est tout d'un coup de mettre des films en miroir, c'est super important. Donc peut-être qu'il y a des gens qui ont eu envie de revoir Vampire Humaniste parce qu'ils avaient découvert d'autres films de vampires et qui se sont dit, tiens, c'est l'occasion, on a une carte licorne ou les places sont pas si chères, donc allons-y, revoyons-le. Et ça, c'est quand même assez important.
Vous le disiez tout à l'heure, Alexandre, le FIFAM, c'est un festival qui met en avant des réalisateurs qui sont pas ou très peu connus. Alors quel public est-ce que vous visez exactement avec ce festival, et surtout comment est-ce que vous arrivez à concilier la volonté de justement mettre en avant des réalisateurs qui ne sont pas ou peu connus et aussi de viser le maximum de personnes, d'attirer le maximum de personnes au festival?
C'est pas forcément que des réals pas connus. Enfin, là, on a sorti la prog de Ville en Mouvement, on a du Scorsese, on a du Tati, etc. Donc des choses qui sont peut-être un peu plus connues, en tout cas avec des films qu'on peut déjà avoir vus et qu'on aurait envie de revoir. Après, en effet, nous, on a quand même cette volonté de mettre en avant des cinéastes qui sont plus émergents, en fait, qui ont fait un film avant, un long métrage, qui n'ont pas encore fait le long métrage. Et c'est aussi pour les aider, en fait, à se lancer. Si on montrait que des films de gens connus, c'est très bien. C'est comme ce que je disais tout à l'heure en programmation. Il y a beaucoup de films que j'aime, mais qu'on va pas forcément montrer parce que le but, c'est pas ça, c'est d'allier tout ça. Après, nous, on a quand même, et surtout, moi, ça vient de ma cinéphilie. Moi, je suis intéressé par beaucoup de choses, que ça soit des choses dites grand public et des choses plus de niche. Moi, ça a jamais été une barrière entre les films, et je sais que dans n'importe quel film, je peux y trouver mon compte, et pas forcément des fois pour les mêmes raisons, mais en tout cas, je peux aimer ça. Je sais que l'année dernière, on était très content de montrer le film Blade, qui est pas un film de festival, et c'est assez chouette de se dire que dans un festival qui peut être, en tout cas, les festivals de cinéma, du fait qu'ils sont, un peu, c'est comme ça, une semaine intense, on a l'impression que ça va être uniquement pour les cinéphiles. On a pas l'impression qu'on pourrait voir des films de super-héros, vampires, qui massacrent tout le monde dans une boîte de nuit sur de la techno, quoi. Mais nous, on aime bien faire ce genre de choses, et je sais que cette année, par exemple, on a des programmations, en tout cas des films qui sont programmés, qui sont pas forcément des films dits de festival. Là, on passe à Mer Béton, qui est un film d'animation japonais qui est pas forcément considéré comme un grand film d'auteur, etc., mais qui est un film génial, et c'est le genre de choses qu'on aime bien mélanger à des choses qui sont un peu plus niches. Et l'idée, c'est pour certaines personnes, en tout cas pour les publics, de pouvoir, comme le disait William tout à l'heure avec Louis Malle, en fait, c'est de voir un film par hasard, parce qu'on n'avait pas d'autres films à voir à ce moment-là, et se dire, mais en fait, il y a des choses intéressantes sur des films qui vont être peut-être plus faciles d'accès, et se dire, je vais aller vers des films qui le sont un peu moins, et c'est comme ça qu'on se découvre des nouvelles cinéphilies. C'est comme ça qu'on découvre d'un coup un film expérimental à 10h du matin, et c'est aussi ça la joie d'enchaîner les films dans un festival, quoi.
William, si on reste un petit peu sur la thématique des spectateurs du festival, est-ce que vous remarquez que dans votre salle, le festival, il permet d'attirer de nouveaux spectateurs? Est-ce que vous sentez un changement dans la typologie des spectateurs, ou est-ce que c'est fidèle au reste de l'année dans votre cinéma?
C'est à la fois les deux. Bien sûr qu'on trouve nos habitués, parce que forcément, s'ils sont habitués à notre programmation chez nous, ils sont forcément touchés par celle du FIFAM. Donc c'est des gens qui parfois posent des congés pour pas aller travailler et acheter une carte licorne et tout d'un coup voir des films pendant 8 jours. C'est des gens très investis. Et de l'autre côté, l'aura, le rayonnement qu'a le festival permet bien sûr aussi d'aller chercher un nouveau public. Pour reparler de Vampire Humaniste l'année dernière, on a découvert, en plus c'était que des jeunes quasiment entre 15 et 25 ans, et qui parfois, on le voyait, venaient pour la première fois, ce qui nous demandait dans quelle salle c'était. Donc si les gens viennent chez nous souvent, ils savent qu'il n'y a qu'une salle, donc ils ne posent pas cette question-là. Donc souvent quand les gens nous demandent c'est dans quelle salle, on sait qu'ils viennent pour la première fois. Et ça c'est chouette, et un festival quel qu'il soit, encore plus quand il a un rayonnement international, national comme le FIFAM, forcément ça permet une ouverture et aussi un événement, parce que les médias s'en emparent, c'est quand même le Courrier Picard, France Bleu, France 3, Weo, il y a quand même un rayonnement médiatique aussi. Radio Campus, bien sûr, bien sûr, Radio Campus. Et finalement, ça permet aussi aux gens d'être davantage touchés et ça fait date, en fait, comme tu le disais, et ça, en introduction, c'est que c'est un événement amiénois à pas rater. Donc les gens, comme je disais, sont prêts à poser des congés pour venir et les étudiants à sécher des cours parfois pour venir voir les films. Et c'est très bien, continuez à le faire. On a fait la même chose quand on était à votre place. mais voilà quoi, c'est oui, à la fois les deux pour répondre à ta question.
Alexandre, chaque année, le jury est composé de professionnels du cinéma. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur l'identité de ce jury cette année et surtout, comment est-ce que vous le choisissez?
C'est bah comme en fait pour tout ce qui concerne le festival, c'est un tas de choses qui se croisent déjà avec l'envie de faire confiance à des gens dont on aime le travail et aussi le regard en fait, parce que c'est un exercice qui est pas évident de se regrouper comme ça sur voir 10 films en 3 jours et de réussir surtout à en tirer quelque chose des gens en fait qui vont pas forcément juger les films sur juste uniquement « Ah, c'est mon film préféré », mais aussi prendre en compte la vie du film ensuite. Ce qu'on disait tout à l'heure, des films qui n'ont pas forcément de distributeur, bah, c'est peut-être intéressant de leur donner un prix du jury parce que ça va les aider plus tard. Il y a ce genre de choses. Cette année, moi, je suis assez content du jury qui est assez varié. Il y a aussi, on propose à beaucoup de gens qui ne sont pas forcément disponibles aussi. Hein, c'est... pas que les gens qui soient là soient des seconds choix, mais surtout des gens qui nous disent « Ah bah, j'aurais été très intéressé, mais l'année prochaine, là on a peut-être déjà notre jury de l'année prochaine, ce qui est assez chouette, mais il y a de ça. » Et puis ceci, nous on a quand même au festival l'envie d'inviter des gens qui, on le pense ou on le sait, sont sympas. Et c'est important parce qu'on aime bien cette idée que les gens qui viennent au festival vont croiser les invités et que les invités vont pas être enfermés dans... d'un bar VIP, etc., mais qui vont pouvoir discuter avec les gens. Et je pense que c'est souvent un critère qui est intéressant pour nous parce qu'on se dit, bah, il va se passer des choses. Et je sais que chaque année, bah, c'est le cas. En fait, moi, je connais des gens qui sont restés potes avec des invités et qui ont bu un coup ensemble. Et puis maintenant, se croisent quand ils vont, je sais pas, à Paris ou ce genre de choses. Et c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et après, bon, il y a des choses plus classiques. On aime bien aussi, inviter des gens, des cinéastes, des acteurs, actrices, mais aussi des professionnels du cinéma, directeurs, directrices de festivals, ce genre de choses, ou des gens qui sont pas forcément liés directement au cinéma, qui vont plus être liés à d'autres arts. Et en fait, c'est d'essayer de créer une cohérence dans la différence des gens qui vont être invités, en fait, qui fait en sorte que leur avis va faire sens et qu'il n'y ait pas une personne qui serait qui prendrait le lead, forcément, même si ça arrive toujours un petit peu, j'imagine, mais que chacun puisse apporter quelque chose à pierre à l'édifice dans le choix du film qui va être primé.
Vous recherchez beaucoup l'interaction finalement, et le FIFAM c'est aussi un festival qui interagit beaucoup avec son public. Chaque année il y a un prix du public qui est décerné. Est-ce que vous remarquez un décalage entre les goûts du public et le résultat final du jury?
Alors c'est intéressant parce que moi c'est toujours un petit jeu entre guillemets avec le comité de sélection, c'est que on aime voir si des films qu'on a plus portés que d'autres par rapport à d'autres personnes du comité sont appréciés par le public ou pas, parce qu'on a du coup on a les chiffres vis-à-vis des notes qui sont données par le public. Moi je sais que dans notre sélection en général, on sait qu'il y a des films qui sont plus à même de gagner le prix du public et des films qui sont un peu plus, tout simplement parce que par le fait de nombre, il y a plus de gens qui vont voter par rapport au jury, l'effet de nombre des films qui vont être qui vont plus toucher directement au cœur. En sortie de séance, quand on vote, forcément lui donne une meilleure note. Mais c'est aussi l'idée d'une programmation de compétition. C'est qu'il n'y a pas forcément que des films qui sont très faciles d'accès, mais voilà, c'est aussi ça qui fait que des films vont plus être appréciés par le public que d'autres. Mais c'est toujours, moi, je suis toujours très curieux de voir quel film va être plus apprécié, quel film arrive en deuxième, quel film n'est pas du tout aimé aussi. Et puis, des fois, on le sait, des fois, on a des surprises. Et c'est aussi ça, le sel de cette compétition, je pense.
William, pour rester sur les spectateurs, est-ce que vous ressentez un changement d'ambiance dans votre salle pendant le festival, notamment par exemple dans le rapport que les spectateurs ont au film, sur les débats qu'ils peuvent avoir entre eux par rapport au reste de l'année dans votre salle?
Nous, le vrai changement, je pense, parce que les débats, on en fait un peu souvent, les gens sont habitués, c'est même pour ça que d'ailleurs ils continuent le film, parce que c'est vraiment un prolongement de tout ça, de ce travail-là commun. Mais le vrai changement, nous, c'est le nombre. C'est qu'on est, on est pas habitué à avoir autant de personnes dans notre salle tous les jours. Et le nombre crée vraiment un truc ultra chouette dans le hall, en sortie de séance, même dans la file d'attente en amont, en salle également. Il y a vraiment une sorte d'effervescence qui est cool de ça. L'année dernière, c'était d'autant plus vrai, puisqu'en plus, il y a eu le Café Bleu qui s'était installé chez nous dans notre hall pendant une semaine et qui a rajouté de la convivialité, du temps d'échange, de partage dans le hall, ce hall triste dont on n'arrive pas à faire autre chose pour le moment, mais on travaille dessus, qui est vraiment mal fagoté. Mais voilà, donc que Bleu a vraiment bien investi l'année dernière et qui a aussi donné cet aspect un peu cocooning du hall et vraiment de... C'est bête, mais un café et une part de cake, tout d'un coup, les gens discutent et ça crée une autre ambiance, quoi. C'est assez chouette. Donc oui, on sent vraiment une effervescence, mais qui, je pense, s'explique vraiment beaucoup par le nombre de spectateurs au mètre carré sur la journée, quoi. C'est assez dingo.
Une question peut-être pour finir sur la programmation du festival. On dit souvent qu'une introduction et une conclusion, c'est important. Cette année, vous débutez le festival avec Snowpiercer de Bong Joon-ho et vous le terminez avec Vacances romaines de William Wheelers, il me semble. Pourquoi ces deux films-là et en quoi ils sont un petit peu représentatifs du reste de la sélection?
Pour Snowpiercer, Snowpiercer, c'est un film de Bong Joon-ho qui en fait contient toute... Donc c'est une idée de Saskia Corlew, qui est programmatrice avec moi, qui contient une grande partie de notre programmation dans cette thématique et dans ce qui s'y passe, parce qu'on a donc un film post-apocalyptique dans une terre qui est recouverte de glace, avec l'équivalent d'une ville en fait contenue dans un train en mouvement, donc une ville en mouvement, mais non, en fait surtout on a l'équivalent, ouais, de cette ville avec chaque wagon va contenir, je sais pas, le wagon où il y a une école, le wagon où il y a les coiffeurs, ce genre de choses. Mais il y a surtout aussi cette idée du collectif avec, c'est tout le cinéma de Bong Joon-ho qui est très centré sur les luttes des classes. Et là, les gens en queue de train vont vouloir remonter pour un peu inverser la tendance ou en tout cas changer les choses de leurs conditions. Et en fait, voilà, on retrouve cette idée de l'individu qui peut se constituer en collectif, en groupe, pour avancer très littéralement de wagon en wagon pour essayer de bouleverser tout ça. Donc on a trouvé que c'était assez intéressant, et puis surtout en plus de ça, on aime bien montrer des films qui sont un peu plus pas forcément le mot grand public, mais en tout cas des films qui vont moins être de niche, comme on peut le faire après au cours du festival dans des mêmes thématiques. Donc on aime bien ouvrir avec, enfin bon, Jungo, il y a quand même eu Palme d'Or, Oscar, etc. Beaucoup de choses avec Parasite. C'est un cinéaste assez chouette. C'est un film d'action aussi, avec un gros casting. Donc, c'est assez chouette de dire, vu que c'est une séance gratuite avec accès libre, c'est bien de se dire qu'il y a des gens qui peuvent venir là et voir ce film qui finalement n'est pas plus montré que ça, mais qui est assez intéressant. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps. C'était assez chouette de le revoir. Et pour le film de clôture, c'est un peu différent. Là, c'est plus dans la façon dont c'est dur de choisir un film de clôture parce que bon, il arrive à la fin et on a envie qu'il y ait des films qui soient montrés vraiment pendant le festival, accompagnés, etc. Et le film de clôture, on aime bien, alors moi j'aime beaucoup ce cinéaste-là, William Wheeler, on aime bien faire en sorte qu'il y ait un film qui puisse être un film un peu de patrimoine comme ça, qui peut regrouper des gens justement pour terminer le festival avec quelque chose, un petit truc qui réchauffe, qu'on connaît pour certains déjà et qu'on peut redécouvrir. Enfin, pareil, encore une fois, un gros casting. Mais aussi du fait que d'autres personnes vont aller faire la fête de clôture à ce moment-là. Donc, on s'est dit, bon, il y a un film un peu plus patrimoine et un film... Enfin, et après, à côté de ça, quelque chose de plus festif. Mais c'est vraiment l'idée, ouais, que d'offrir un dernier petite chose sur notre programmation avant de terminer. Même si le lendemain, il y a encore reprise des films primés, le samedi, des films primés que les gens ont ratés, qu'ils peuvent redécouvrir ensuite.
Un grand merci à vous deux d'avoir répondu à mes questions. Beaucoup. Pour rappel, du coup, le FIFAM, c'est du 14 au 22 novembre. C'est accessible à tous. Alors, foncez-y, vous allez y passer des bons moments. Le Ciné Saint-Leu diffuse des films du festival, donc n'hésitez pas à y aller. Un grand merci à vous deux.
Merci.
Merci.
On fait une courte pause musicale avant de retrouver la chronique du jour sur un air d'R&B, Been Away par Brent Faiyaz.
I'm just trying to get my paper straight, girl. Don't give my shit away. I'm just trying to get my paper straight, girl. I know I've been away. I'm just trying to get my paper straight, girl. Don't give my shit away. I'm just trying to get my paper straight, girl. I just wanna fuck with you, 'cause they know I fuck with you. If I put my trust in you, what will you do? Will you just step out? Would you thug it out? Would you be here to the end? I just wanna know, is you my friend? I just wanna know if you pretending. I know I've been away. Trying to get my paper straight, girl. Don't give my shit away. I'm just trying to get my paper straight, girl. I know I've been away. I'm just trying to get my paper straight, girl. Don't give my shit away. I'm just trying to get my paper straight, girl.
Baby, 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 baby. Don't let me down. Don't do me wrong, 'cause I ain't got no one at all.
This penthouse view ain't as beautiful as you. Won't ever have time, but I can make time for you. Boy, I used to tell lies, but I would never lie to you. Shopping spree on my dime, looking all kinds of new. Do you know what I like? What would you like to do?
Tell me, I'll tell you. I know, yeah, I've been away.
I'm just trying to get my paper straight, girl. Don't give my shit away. I'm just trying to get my paper straight, girl. I know I've been away. I'm just trying to get my paper straight, girl. Don't give my shit away. I'm just trying to get my paper straight, girl.
De retour sur Info Club Sandwich.
Sans plus attendre, on se retrouve avec la découverte musicale proposée par Julien.
Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un album de rap issu d'une collaboration entre Petite Sœur, Femme Togo et le beatmaker belge Néofront qui signe la prod. C'est un album qui est sorti le 11 octobre dernier et qui a fait beaucoup de bruit, à tel point qu'il s'est placé à raison juste derrière le dernier album de Taylor Swift dans les charts. Cette collaboration artistique s'intitule Pretty Doll Cops, ou en français « Joli corps de poupée » si on traduit littéralement. Le titre peut directement faire écho à l'identité queer de Petite Sœur, mais aussi au passé commun de grooming subi par Petite Sœur et Femme Togo. L'idée de corps de poupée nous renvoie à la transidentité de Petite Sœur et à l'expression « doll » pour désigner les femmes trans, expression qui a donné son nom au mouvement « Protect the Dolls » lancé ces dernières années aux États-Unis. En réponse notamment aux répressions et discriminations envers la communauté trans. Le corps de poupée est aussi le rapport à l'objet, et à ce corps objectifié, violenté par la société, mais aussi par les hommes qui ont groomé les artistes. On peut citer Femme Togo lorsqu'il dénonce la pédophilie qu'il a subie.
Ici personne n'est responsable, sauf le fils de pute qui m'a souillé, quand j'avais encore l'âge de jouer dans le sable.
L'album traite, vous l'aurez compris, de ces deux thématiques qui ont pour lien le traumatisme social. Bien que les artistes y abordent le harcèlement, les abus liés à un corps queer dans une société patriarcale qui ferme les yeux, Les textes résonnent avec une pointe de lumière dans ce récit plutôt sombre.
Y'a de l'espoir, les mômes. Y'en aura toujours. Personne nous a abattus, personne nous abattra. La peur change de camp, bande de pute.
Il ne faut pas oublier que l'album est un moyen pour ces artistes de reprendre le pouvoir. En abordant des thématiques rarement abordées dans le rap français, Yael s'affirme. C'est un véritable cri, presque cathartique, qui s'opère. L'album commence très fort, avec des sonorités très denses, et va venir s'apaiser pour conclure sur deux solos, Prison de chair, de Petite Sœur, et Le Môme, de Femme Togo. Depuis sa sortie, l'album fait beaucoup de bruit, et les questionnements autour de sa légitimité à être considéré comme un album de rap vont bon train sur les réseaux sociaux. Certains le jugent trop violent, voire trop queer pour être un album de rap. Pourtant, si on se penche sur les origines du rap, on parle d'un art qui permet aux minorités de faire entendre leur voix. Né des minorités new-yorkaises des années 70, il est à son origine un moyen d'expression et de revendication des minorités ethniques. Le rap est historiquement un art qui permet aux minorités de s'affirmer, mêlant rythme et engagement social. Petite Sœur et Femme Togo ont donc totalement leur place dans cette discipline. D'autant plus qu'avec cet album, elles font entendre des points de vue fondamentaux sur des sujets de société comme les violences sexuelles, la transphobie et plus généralement la haine des minorités queer. Une haine qui prend notamment de plus en plus d'ampleur avec la montée des mouvements fascistes partout dans le monde.
Je suis comme Ginger, j'égale tout le monde, sauf que moi je tape pas la zip. Des couleurs dans l'enveloppe marron, pour tous bléguer je me sentais vide. Ma langue pendue derrière les vitres, ça m'a donné la rage de vaincre. En silence je gardais la posture, j'attendais la frame pour les éteindre. Les corbeaux ne sont pas bavards, avec eux on bouffait les asticots. Ils me voyaient crever sur le boulevard, ça me traitait tous les noms d'oiseaux. À l'âge où toi t'étais naïf, j'étais déjà vindicatif. Je faisais disparaître l'épreuve, mélangé dans le chiotte avec ma pisse. Propane c'est les clous, Novichok le terreau. La carte mère surchauffe, je kiffais péter Néo. iPhone 6 déclencheur, on a sauté le bureau. Prends-moi le flash thermique, t'as pas laissé leurs os. A chaque fois ils chialent quand je rentre sur la base. A chaque fois je chiale quand je parle de mes. Rends-toi compte, ça voulait me signer pour 30 balles. 30 balles c'est ce que j'ai fait les 6 mois qui suivent. 30 balles c'est même pas l'année de mon père à l'usine. 30 balles c'est même pas ce que je vais donner aux petits. 30 balles c'est même pas ce que ma mère a dépensé pour elle en 20 ans dans cette chaîne de vie.
Voilà, c'est sur ces mots que se termine Info Club Sandwich. Restez à l'écoute de Radio Campus Amiens et on se retrouve lundi pour une nouvelle émission.
En attendant, on se quitte sur un son d'automne, Fade Into You de Maisie Star.
Bonne journée sur le 87.7.
Put your head